Oh boy! Là, ça va jaser en studio. On a des placoteuses. On a Élodie Derry qui, depuis sa naissance, est une placoteuse. Et on a Paul Lévesque, éducatrice spécialisée.
Oui, Paul, je suis sûre que c'est de naissance aussi.
Qui est spécialiste du comportement humain. On me dit que le Twitch n'aurait pas de son.
Il y en a là.
Bon, il y en a.
Il n'y en avait juste pas pendant les pauses. Est-ce que vous le laissez d'habitude?
C'est une bonne question. Faudrait demander ça à des gens qui travaillent ici.
Ah oui, c'est ça. Il n'est pas au courant.
Comment ça va, ma belle Paul?
Ça va très bien.
Hey, on parlait de deuil, de séries télévisées ou encore de films. Tu sais, quand ça finit, tu dis, oui, on s'en met un film, quand j'en aurais encore pris plus, tellement je trouvais ça intéressant. Puis après ça, on parlait du fait qu'il y a des gens qui retournent dans leurs anciennes séries. Moi, je suis en train de me retaper les Lost, là. C'est long dans mon cas quand je me retape des séries. Parce que j'écoute à peu près 15-20 minutes d'émission de Lost par jour. Ce qui fait en sorte qu'un épisode, ça peut me prendre quoi 2-3 jours à peu près à écouter.
Je suis pareil.
Mais le plaisir que
c'est
j'ai
long.
À revenir sur les anciennes séries que j'avais déjà écoutées. Puis des fois, tu découvres comme d'autres choses. Puis ah, ben tu vois, ce personnage-là, à première écoute, il m'intéressait pas tant. Mais wow, tu sais, quel personnage qu'on a décrit. Puis tu parlais des petits deuils qu'on avait quand ça finissait.
Quand ça finit, c'est comme si tu quittais un univers dans lequel tu t'es plu à te déposer, à connaître les personnages. Puis c'est vrai que quand tu écoutes une deuxième fois, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu n'es pas rendu à la même place non plus. Ton attention n'est pas attirée par les mêmes affaires.
Ah!
Tu comprends?
Oui.
Tu n'es pas à la même place. Un peu comme des fois, il y a des gens qui vont suivre... Des fois, il y a des gens, juste parce qu'ils disent, voient mon nom, ils disent, on va à la conférence à Paul. Même si j'ai 60 thèmes, ça se peut faire 3 fois qu'ils écoutent le même thème parce qu'ils n'ont pas, même s'ils sont tout le temps retravaillés, puis ils me disent, on dirait que ce n'est pas la même conférence. Parce que, comme tu n'es pas rendu à la même place, tu n'écoutes pas de la même façon.
C'est tellement vrai.
Tu t'assois avec tes besoins. Puis d'ailleurs, moi, je l'observe, quand je viens vous voir, puis je vous propose des thèmes, vous allez probablement choisir des thèmes qui sont en lien avec quelque chose que vous avez envie vous-même d'entendre à cause de ce que vous vivez, à cause de... Tu sais, parce qu'on a envie d'être attaché à ce qui se dit, puis on n'est pas attaché de la même façon selon ce que tu... Tu sais, ce que tu as vécu hier, ce que tu as vécu il y a 3 semaines, où tu as les 2 pieds dedans en ce moment,
tu sais. Ouais. Tu vois, moi, j'ai écouté... Il a dit parler de la série Friends. Moi, je ne l'ai pas écouté quand ça jouait, là, semaine après semaine. Je l'ai réécouté plus tard quand ils étaient tous disponibles. Je les ai pognés sur Netflix.
Moi, je les ai pognés sur Netflix. Maintenant, ils sont sur Crave, je pense.
Puis, quand ça a terminé, j'avais un petit deuil. J'étais là, hey, je ne reverrai plus à la gang.
Ouais. C'est ça.
C'est comme
c'est tes amis. Ils font partie de ton quotidien. Tu connais leur personnalité, leur joie, leur peine, leur travers, leur qualité. Puis, en effet, je trouve que c'est réconfortant de revenir à cette gang-là une fois de temps en temps. Puis, avec Friends, ce que je fais, tu sais, une journée que t'es malade, là, tu sais, une journée bouillon de poulet, là, ben, je retourne écouter un épisode au hasard. Je m'en fous de pas suivre la chronologie des événements, puis ça me fait du bien.
Ouais.
Plus que d'écouter quelque chose de nouveau, où est-ce que là, il faut vraiment que tu sois attentif, puis tout.
Puis là, tu vois, j'ai embarqué mes gars dans les Simpsons. Mes gars sont pas nés à l'ère des Simpsons.
Mais non.
Là, je les ai embarqués là-dedans, puis ils sont crampés les deux. Ils comprennent pas toutes les jokes, puis ils comprennent pas pourquoi moi je ris à chaque fois qu'Homer dit des niaiseries.
Tu es Homer!
On se reconnaît peut-être.
Ben, il y a
un
des
peu.
Petites tendances, effectivement.
Non, au départ, j'étais comme Bart, plus jeune, j'étais comme Bart. Puis là, en vieillissant, je me rends compte que, oui, effectivement, là, Homer me fait penser un peu à moi des fois. Mais j'aime ça m'amuser.
Puis le faire découvrir à quelqu'un d'autre.
Oui, exact. Ouais. Exact. Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, aujourd'hui, tu as choisi un sujet que j'aime bien, le fameux TDAH. Puis j'aimerais ça qu'on discute juste avant les trois. Qu'est-ce qui fait qu'en 2024, tout le monde a besoin d'être dans une case bien précise? Longtemps, moi, j'ai eu des gens autour de moi qui disaient « Ah, mais moi, je suis TDAH. » J'ai peut-être fait partie de ces gens-là aussi. Puis je me rendais compte que ces gens-là, c'était pas des TDAH diagnostiqués.
Mm-hmm.
Ils disaient tout le temps « Ah, ben moi, je suis à haut potentiel. » C'est comme si les gens avaient toujours besoin d'être uniques puis de se mettre dans une case. Ça se peut que tu sois juste lâche puis que tu sois pas assez responsable dans la vie. Mais définis-toi pas comme TDAH. Tu l'insultes pour les gens qu'ils sont pour de vrai.
Mm. Moi, je veux clamer haut et fort, je suis neurotypique.
C'est quoi ça encore?
Je suis normale! Puis là, c'est le grand thème pour dire... J'ai rien de particulier.
Ouais, en tout cas, j'ai pas été diagnostiqué.
J'ai vu un gars sur Internet, je pense que c'est sur TikTok, qui disait « Ah, moi, je suis neurodivergent. » Tu sais, avant, tu avais hétérosexuel, homosexuel. Là, homosexuel, c'est juste straight.
Moi,
Serge Denoncourt, que j'aime bien écouter, là, Serge Denoncourt, je le trouve franchement brillant. Lui, c'est un gay avoué, puis ça fait longtemps qu'il est avec son chum. Ça fait des décennies, puis il dit qu'il se fait rejeter par la communauté LGBTQ plus 2 XY parce qu'il est trop straight.
Il est juste aux hommes, puis c'est un homme.
Mais tout le monde désire aujourd'hui être dans une case. Ils veulent pas être comme tout le monde. Fait qu'ils se mettent dans des cases, puis même ceux qui sont pas TDAH se disent TDAH parce qu'ils sont trop lâches pour être à leurs affaires.
Mais ça vient de où, ça, c'est vrai?
Ah, écoute, il y a beaucoup de questions là-dedans. Bon, démêlant tout ça, mais c'est tellement intelligent. Bien, je pense que le terme est galvaudé. C'est que pour expliquer notre comportement, on va utiliser une étiquette qui est connue et reconnue pour expliquer... J'appelle ça des raccourcis.
Pour okay. excuser, peut-être,
bien,
même?
Ça, c'est un... Il y a tout ça là-dedans. Okay. Mais le premier, c'est, je pense, qu'on prend des raccourcis. Pour expliquer à quelqu'un que j'ai beaucoup d'énergie, par exemple, je vais dire que je suis hyperactive. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. On peut prendre des raccourcis, ça peut être le manque de connaissances, ça peut être l'excuse. « Ah, mais moi, je suis TDAH, donc tu comprendras qu'il se peut que je sois ceci, cela. »
Donc, pardonne-moi.
Pardonne-moi et je peux l'utiliser. Mm-hmm. Mais je pense aussi que c'est le manque parfois de connaissances. C'est quoi? Puis aujourd'hui, je vous avais envoyé vraiment le fait de s'attarder au déficit d'attention avec hyperactivité, mais aussi quand je reste avec quelqu'un, parce que ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on comprenne la différence entre « je peux pas » puis « je veux pas ». Parce que c'est vrai qu'il y a des caractéristiques qui vont faire que, bon, premièrement, c'est pas une maladie, là, on vient de régler ça. Donc, c'est pas évolutif. Tu nais et tu meurs avec un TDAH ou un TDA. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand je comprends mieux qui je suis, ça se peut que je sois plus performant. Moi, je travaille avec des gens d'affaires, là, tu sais, qui ont des portefeuilles de millions, puis qui ont un vrai déficit d'attention, puis que sont obligés d'avoir des petits points de couleur dans leur dossier mm-hmm. pour être capables de se démêler.
Mais ils se prennent en main, Paul.
Oui,
moi, j'en ai contre les gens qui se disent TDAH, qui n'ont jamais été diagnostiqués, mais il faut que tu acceptes qu'ils ne sont jamais à l'heure. Faut que tu acceptes qu'ils sont supposés t'appeler pour telle ou telle raison, mais ils ne t'appellent pas. Faut que tu acceptes que la maison n'a pas été barrée, mettons, parce qu'elle ou lui a juste décidé qu'il ne barrait pas la porte cette journée-là. Il n'y a pas pensé. Faut que tu acceptes que cette personne-là, avant de se coucher, elle ne mette pas son alarme pour se lever pour aller travailler le lendemain. Non, non, attends un peu. Structure-toi, puis je vais être là pour t'accompagner. Là, parce que c'est de ça qu'on parle, d'avoir une conjointe ou un conjoint TDAH. Ça doit être l'enfer pour quelqu'un qui ne l'est pas, d'être en couple avec quelqu'un qui se dit TDAH, mais qui, dans le fond, veut juste pas prendre ses responsabilités en tant qu'adulte.
Puis même si tu l'es, chérie, je te parle en ce moment, là. Non, mais c'est parce que mon chum, il est là-dedans, dans cette catégorie-là, OK? J'ai dit, t'écouteras la radio, chérie. Mais c'est parce qu'il y a une différence entre je le suis et je prends des bons moyens mm-hmm. compensatoires pour être fonctionnel. Parce que la pire chose à faire quand t'es conjoint ou conjointe, c'est de materner ou d'infantiliser.
Ah, oh, c'est bon, ça.
OK? Peu importe qui qu'il y a devant toi. Tu sais, moi, je fais 4 pieds 10, là. Je le cacherai plus. Yannick peut le clamer haut et fort puis me taquiner avec ça. Ben, tu sais, chez nous...
Tu sais quand ça prend un escabeau pour monter sur sa chaise, là?
Oui, ben c'est quasi... Non, mais je pourrais... Il faut que tu ignores Élodie, parce que si tu lui donnes trop de crédit, il va en rajouter.
Oui, il faut que je fasse comme avec mon chum. Ignorer les comportements négatifs.
Oui.
Donner de l'attention aux comportements que j'apprécie.
Oui.
C'est ça aussi avec mon enfant d'un an.
Mais c'est parce qu'il y a des risques, là, ça prenne le dessus.
Hein, quand tu jettes sa bouteille d'eau par terre, je la ramasse sans rien dire. J'y donne, puis après 3 fois, je fais juste plus m'en occuper.
T'es une bonne mère.
Continue.
T'es la bonne route. Mais tu sais, ce que ça veut dire, c'est... On peut utiliser, peu importe que ce soit le déficit d'attention ou autre chose, je donnais ça comme exemple, parce que tu peux utiliser ton physique pour excuser que je ferai rien. Ben, j'ai des bas dans toutes les pièces, je ne suis pas toujours en train de l'attendre pour dire « viens chercher quelque chose en haut de l'armoire ». Ben, c'est la même chose pour les déficits d'attention. Mm-hmm. T'sais, pis si on démêlait les affaires, c'est pas parce que tu as de l'énergie que tu es hyperactive. Parce qu'au départ, le déficit d'attention, c'est un désordre neurologique qui n'évoluera pas. Il va évoluer seulement si tu prends des bons moyens compensatoires, tu comprends? Mais c'est pas le déficit qui évolue, c'est toi qui es plus intelligent que le déficit.
C'est que finalement, quand tu as un vrai de vrai diagnostic, que oui. tu comprends exactement comment ta tête est faite,
oui.
mais là, tu peux aller chercher les outils pour oui. Oui. travailler avec ton TDAH puis être efficace quand même. Puis j'imagine même, puis j'ai entendu ça, puis j'ai hâte que tu me dises si c'est un mythe ou une réalité, même des gens qui ont un TDAH qui sont outillés peuvent même être plus performant que oui. quelqu'un qui...
devient oui. souvent des hommes et des femmes d'affaires.
Oui, c'est ça.
Oui, hein? Parce que ça touche pas, et là, je vais vous dire, un déficit d'attention ne touche pas l'intelligence, mm-hmm. ne touche pas la mémoire, ne touche pas la personnalité, ne touche pas la persévérance. Et pour moi, le travail, la persévérance sont les outils essentiels pour réussir dans la vie. Donc, on peut réussir, peu importe la caractéristique, à moins que ce soit une caractéristique extrêmement pénalisante. Quand tu parles d'un déficit d'attention pure, on appelle ça les lunatiques.
Ouais.
OK? Donc, ça veut dire que tu oublies... OK, l'image, c'est que t'es un clignotant. Je suis là, je suis pas là.
Ouais.
C'est
bon.
OK?
Tic-tac, tic-tac.
Donc, tu fais des absences, tu fais des oublis. Et c'est ceux qu'on diagnostique le plus tard. Parce qu'ils dérangent pas les autres.
Ça, c'est ceux qui ont pas d'hyperactivité.
Voilà, okay. Le déficit d'attention pure.
J'ai passé 5 ans avec un TDA. Quand on s'est séparés, il est allé consulter parce qu'il venait de se séparer et ça allait pas bien.
La semaine d'après, il est revenu en disant « Salut mon amour ». Puis il dit « Ça fait une semaine qu'on n'est plus ensemble. » J'avais juste oublié le moment.
Il était pas là. Mais à partir du moment où il a su que c'était un TDA, premièrement, on a fait des liens avec tous nos problèmes de couple. Puis deuxièmement, sa vie est partie en flèche vers le succès et le bonheur. Là.
Oui, parce que...
Puis j'étais plus là aussi, il y a ça.
Ben, on va mettre... tu sais, c'est multifactoriel. Peut-être, Élodie, c'est le pourcentage qu'on ne sait pas. Quel était le pourcentage?
Mais tu sais, on a eu des discussions là-dessus. Puis je sais que c'est quelqu'un qui, une fois qu'il a eu son diagnostic, il a eu ses outils. Et en effet, c'est un diagnostic qui a eu lieu dans la trentaine parce que sans hyperactivité,
oui.
on cible beaucoup moins facilement le problème.
Oui. Puis je vais te dire même plus que ça, c'est qu'il y a 40 ans, on n'en parlait pas alors que c'est rendu...
Ça n'existait pas.
Puis actuellement, il y a des parents qui vont être diagnostiqués parce que vous savez que c'est héréditaire à peu près à 80 %. Donc, il y a des parents qui se reconnaissent dans leur enfant et qui disent « OK ». Parce que, tu sais, des fois, les gens me disent « Oui, mais Paul, ça donne quoi d'être diagnostiqué? Mm. Oh, je veux pas de médication. » Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de comprendre enfin pourquoi. Pourquoi j'ai tel comportement? Pourquoi j'arrive pas au niveau relationnel? Et tu le comprends et tu avances. Si tu le comprends pour l'utiliser... Là, j'ai un bug avec ça. Donc, tu peux avoir eu un bonus, déficit d'attention avec hyperactivité.
Puis ça, la personnalité est différente. Tu sais, là, tu disais, celui sans hyperactivité, il est là, il est pas là, il est là, il est pas là. Celui avec hyperactivité, il est tout le temps là ou...
Il y a un feu de Bengale dans la tête. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a le déficit d'attention qui est clignotant, fait des oublis, tout ça, mais en plus, il y a un feu de Bengale dans la tête. Fait que, tu comprends? Il est comme monté sur un ressort. Et souvent, les gens qui ont beaucoup d'énergie, on va dire « Ah, il est hyperactif. » Moi, on pourrait me dire ça, mettons. Mais moi, je n'ai pas de déficit d'attention, donc je ne suis pas hyperactive. Je suis juste une fille qui a beaucoup d'énergie.
Est-ce que l'hyperactivité vient nécessairement avec le TDA?
Oui.
OK.
Ah oui, oui.
Tu ne peux pas être juste hyperactif.
Non.
Je savais pas ça.
Tu as un déficit d'attention avec hyperactivité. Au départ, c'est ça la trame de fond. Et tu peux avoir eu un deuxième bonus, qui est l'impulsivité. Mais tu peux avoir aussi... pas l'hyperactivité, c'est-à-dire le déficit d'attention avec impulsivité, comme tu peux avoir eu les deux jackpots. Et dans l'impulsivité, tu peux retrouver certaines caractéristiques qui sont là ou pas là, tout dépendant. Donc, bien sûr, l'impulsivité, c'est que tu penses après, mais tu peux avoir des habiletés sociales qui sont faibles, tu peux avoir de l'opposition, tu peux avoir de l'anxiété. Et tout ça vient avec un dérèglement neurologique.
Mais là, le rôle du conjoint ou de la conjointe dans
oui.
cette histoire-là, tu dis, c'est pas de materner.
Non.
C'est de ne pas infantiliser la
non.
personne. Mais est-ce que la personne a un rôle quelconque ou elle fait juste laisser aller son TDAH ou son TDA dans le vide?
Ouais. C'est une bonne question. Moi, on m'a souvent dit que j'avais besoin plus de structure. Moi, j'étais un gars qui fonctionne bien dans la déstructure. Quand j'ai pris mes cours de pilotage d'avion, c'est quand même assez important d'être structuré. Okay. À partir du moment où je suis concentré sur mes instruments et tout ça, je suis bien correct. Mais j'avais une déstructure, puis c'est comme ça dans ma vie amoureuse, c'est comme ça dans ma vie avec ouais. mes chums, c'est comme ça dans mon travail, dans ma vie en général. Heureusement, la déstructure m'a donné une job, mais...
mais ta garde parce que mais tu t'es organisé.
À un moment donné, quelqu'un qui est arrivé dans ma vie puis il a dit « Yann, c'est dur, quand nous autres on est organisé, de travailler avec, de vivre avec toi, parce que c'était une de mes anciennes conjointes, de vivre avec toi alors que toi, t'es complètement désorganisé. Ben, tu sais quoi? J'ai commencé à me faire des listes. Si je fais
mais
un lavage...
Tu te rappelles, on avait parlé.
Oui. Si je fais un lavage, c'est vrai, c'est toi qui m'avais sauvé avec les listes. Si je fais un lavage, ben je l'écris, OK, ben mon alarme, je vais la mettre dans une heure. Fait que là, ça va vouloir dire que je vais devoir mettre mon linge de la laveuse vers la sécheuse dans une heure. Fait que là, ça va sonner puis ça va être inscrit. Fait que là, comme ça, je suis capable de bien fonctionner. Mais j'ai pas de TDAH, je suis juste pas à mes affaires.
Ben, est-ce que tu as déjà été en évaluation?
Non, pas du tout. Mais je veux dire, je ne corresponds pas. Quand je regarde tous les trucs pour correspondre au TDAH, je suis dans un point ou deux sur les 150 qu'il peut y avoir.
Quand tu lis ton DSM avant de te coucher.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ben, on peut avoir des caractéristiques sans avoir le diagnostic. On peut avoir certaines caractéristiques.
Oui, mais je veux dire, tu regardes le DSM. Elodie parlait du DSM. Oui. C'est le dictionnaire des maladies mentales.
Oui.
Ben, c'est normal de se retrouver
dans
à peu près toutes les choses. C'est le pourcentage qui va faire en sorte savoir si tu peux avoir ce diagnostic-là ou pas. C'est juste que j'étais déstructuré dans ma vie amoureuse, personnelle, puis au travail. Fait que j'ai pas eu le choix de me prendre en main puis de me mettre des points de référence pour être un peu à mes affaires. T'sais.
Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de caractéristiques aussi. C'est-à-dire que des caractéristiques peuvent être attribuées à plusieurs raisons. T'sais, le fait d'être désorganisé peut prendre racine dans plusieurs éléments qui n'est pas nécessairement une maladie mentale ou un déficit d'attention. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est s'attarder aussi sur les caractéristiques puis comment on fait. Parce que je pense que quand tu comprends quelqu'un, il arrête de te taper ses nerfs.
Mm-hmm.
Tu sais, quand tu comprends que, tu sais, mon chum, là, je te le dis, ça fait 39 ans qu'on est mariés, je l'aime à la folie, mais ça fait 39 ans que quand il va à l'épicerie, jamais, il revient avec les bonnes affaires. Si... Puis c'est un détail, tu vas me dire, mais la frustration au quotidien peut amener une usure du couple. Mais l'idée, c'est qu'on s'est assis et on s'est dit comment on peut faire pour que tous les deux, on ne soit plus frustrés. Parce qu'il ne faut pas t'oublier quelque chose. Pas juste moi qui étais frustré. Lui aussi, parce qu'il est plein de bonnes intentions, parce qu'il se déplace puis il va à l'épicerie. Il est assez fin d'y aller pour notre famille, tu comprends?
Puis tu ne te sens jamais assez, tu sais?
Ben oui, puis cette reconnaissance-là, il ne l'a pas. Parce que quand il arrive avec la bonté d'avoir été à l'épicerie, nous autres, on y tombe sur le dos en disant,
ramasser.
Qu'est-ce que tu as fait là? C'est pas un raisin vert, c'est raisin... Bon, en tout cas, peu importe.
Fait que ça a été quoi la solution? T'es allée ou...
Ben, non, parce que je veux pas faire à la place.
C'est ça.
Moi, en tout cas, moi, vous êtes pas obligé d'être d'accord, mais moi, c'est un adulte, puis j'ai pas envie de faire à sa place.
Mm-hmm.
Donc, on a dit, comment on fait pour trouver un moyen intelligent? Ben, il m'a dit, peut-être tu pourrais l'écrire, m'envoyer un message. Fait que sur mon téléphone, je l'ai, puis je mets des détails, parce que moi, je suis une fille assez synthèse, OK? Fait que j'écrivais une affaire, tu sais, margarine, mettons. Ben oui, mais ça se peut. Même si ça fait 20 ans qu'on achète la margarine, qu'ils achètent la mauvaise.
Margarine végétale.
Oui, la végétale.
Fait que je fais des détails. Fait que c'est pas... Moi, je me suis ajustée parce que, tu sais, le seul pouvoir tu n'as sur toi, tu n'as pas sur l'autre.
Ouais.
Donc, moi, je me suis ajustée aussi. Puis, il est responsable des moyens. Tu me dis tout le temps, Paul, si tu me l'écris pas, tu le sais ce qui va arriver.
Mm-hmm.
Mais j'ai arrêté de lutter parce que ça aussi, j'ai pas envie de le changer, j'ai envie de le comprendre, j'ai envie qu'on fasse équipe. Parce qu'à un autre moment donné, c'est moi qui n'ai pas bonne dans quelque chose.
Puis il se connaît aussi, puis lui aussi, il veut s'améliorer. Il y a Eric qui nous écrit au 418-971-1021. Il dit, savez-vous quoi, moi, pour la laveuse, s'il y a du linge dans la laveuse, pour pas l'oublier, je laisse la lumière de la buanderie allumée.
Très bon.
Fait en sorte que quand je repasse le soir, je vois que la lumière est allumée.
Bon.
Je sais qu'il faut que je prenne mon linge dans la laveuse puis le mettre dans sa chose. Mais moi, combien de fois j'ai parti des lavages, j'oubliais, puis là, le lendemain, j'arrivais, le linge puait, je repartais le lavage, puis je l'ai oublié.
Ah, moi aussi, ça m'arrive,
oui,
par exemple.
Oui, puis vous allez dire, mais on peut pas croire qu'un couple va dysfonctionner à cause de ces affaires-là. Hey, j'ai fait juste la liste des frustrations au quotidien qu'on peut avoir mutuellement. OK, puis j'ai pas fouillé, là. Peut-être, Yannick, tu vas te reconnaître mieux dans ma liste, puis tu vas te dire peut-être que... Bien, imagine que tu vis avec quelqu'un qui fait des oublis répétés. Donc, je vous donnais l'exemple de l'épicerie. Vous allez dire, Paul, c'est rien. Mais c'est parce que des oublis répétés, c'est... Il peut oublier la petite à garderie.
Ouais.
Il peut oublier un rendez-vous. Mon chum a oublié de me dire un jour que c'était le baptême de notre nièce.
Oh, mon Dieu!
Fait que le dimanche soir, il me dit, me semble, j'ai oublié quelque chose en fin de semaine.
Oh non!
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de te faire la commission. C'était le baptême de...
Hein?
Mais c'est parce que... Puis c'est pas... C'est plus fort que la police, tu comprends? Fait qu'imagine, les oublis répétés, la mémoire à deux balles. Moi, j'appelle ça la mémoire à deux balles.
Pas de mémoire, finalement.
Ben oui, t'as une rétention, mais faible. Mm. Donc, imagine que je te lance une information, Élodie, tu l'attrapes avec ta main si c'est une balle, OK? Je t'en envoie une deuxième information, tu l'attrapes, c'est une autre balle. Si je t'envoie une troisième information...
J'ai plus de main.
T'as plus de main. Ben, oui, ça se peut.
Tu lances dans le front.
Puis ça se peut que tu lâches tes deux balles pour attraper la troisième.
Ah oui.
Donc, souvent, avec un déficit d'attention, il retient que la dernière information. Parce qu'il a dû échapper les premières pour attraper la dernière.
Je suis un peu comme ça, puis le truc que j'ai développé, c'est de noter tout de suite. Donc, si quelqu'un me donne une tâche, ou si moi, je suis en train de me dire « Ah, c'est vrai, il faut que je fasse ça. » Je peux pas avoir confiance que dans une demi-heure, « Ah oui, c'est vrai, je dois le faire. » Donc, dès que j'ai l'idée, puis même des fois, je vais arrêter quelqu'un qui me parle, je vais dire « OK, juste un instant, je vais noter ce que tu viens de me dire. » Comme ça, tantôt, quand ça va être le temps de m'asseoir à mon bureau puis de voir la liste de tâches que j'ai, je vais être sûre de le placer dans mon horaire parce que sinon, j'oublie. T'sais.
C'est génial. Ça n'est un truc au fur et à mesure, laisser des traces, prendre des notes, faire des listes, mais ça vient d'une volonté au départ. Mm-hmm. Puis d'une reconnaissance, parce que moi, il y a des gens qui l'utilisent et il y a des gens qui font du déni.
Oui.
Et en faisant du déni de ce que tu es, c'est que tu ne prends pas les bons moyens. Il y a l'inverse aussi. Hey, parle-moi pas de ça. Hey, attire pas mon attention là-dessus. Je ne veux pas en entendre parler. Mais si je ne veux pas en entendre parler, ça se peut que je ne comprenne pas qui je suis. Puis c'est pas de se crier des noms, c'est juste de dire je suis qui dans mes bons puis dans mes faiblesses. Puis si je suis capable de reconnaître qui je suis dans mon entièreté, je vais être capable d'évoluer. Tu sais, puis de trouver des moyens. Puis tu sais, quand tu parlais de frustration, ben il y a la distraction, l'absence, planète Zerba. Tu parles à quelqu'un, des fois, qui a un déficit d'attention.
Il n'est plus là. Hein?
Il était là au début. Tu le vois, les yeux sont là, mais le cerveau, il n'est plus.
Tu parles à une pancarte.
Oui, puis il s'agit que ça y part. Tu sais, ça se peut que tu parles de quelque chose de très sérieux, là. T'as vécu de l'intimidation au travail. Puis là, t'as hâte d'arriver pour en parler à ta blonde ou ton chum parce que c'est ton confident. Puis là, t'es en train d'y parler, puis ça te pogne au cœur, puis ça se peut que tu pleures. Puis Tipit, il est déconcentré parce qu'il vient de voir passer trois coccinelles japonaises, puis il vient de se rappeler qu'il va falloir qu'il fasse du traitement. Fait qu'il va t'amener là-dessus. « Hey, c'est vrai, les coccinelles. » Puis toi, tu pleures ta vie, puis t'es en train de parler. Fait que t'as l'impression qu'il n'a pas de cœur ou qu'elle n'a pas de cœur, mais... Mm-hmm. Ça décroche, tu comprends?
Écoute, j'ai des messages pour toi. Là. Hélène qui dit « Merci beaucoup d'en parler, les amis. C'est tellement insultant lorsque quelqu'un clame être TDAH sans l'être, sans diagnostic. Le TDAH, tellement plus qu'être seulement une personne étourdie. Lorsque j'ai enfin appris que je l'étais et j'ai été diagnostiqué, ça m'a aidé à aller chercher les bons outils ensuite pour m'aider. » Carl qui dit « Salut Paul, est-ce qu'un manque d'attention peut être causé par un manque d'écoute des autres? » Tu as répondu pas mal à cette question-là. Richard qui dit « Salut, je suis TDAH dans le H. J'ai 45 ans, j'ai eu mon diagnostic il y a de ça 2 ans, même si je le savais depuis quelques années après avoir écouté PA Méthode en entrevue. C'est vrai que je suis la dernière personne à... C'est vrai que je ne suis la dernière personne à être aperçue, mais moi, je m'en suis servi pour aller chercher des outils et non pour m'en servir comme excuse. » Tu vois, ça revient à ce qu'on disait tantôt.
Oui, mais je pense que la plupart des gens... Mais je pense... OK, je vais dire quelque chose de très grossier. Je pense que la plupart des gens qui se trouvent des excuses s'en trouvent de toute façon.
Dominique, il dit « Je vois le vent, je ris toute seule dans mon char. Paul vient de me décrire avec les coccinelles.
» Ben, c'est la vraie vie, tu comprends? Puis, mais ce qui est savoureux, c'est... Moi, je les appelle mes cerveaux de scientifiques. Ça, dans leur tête, c'est comme s'il y avait mille et une possibilités, ce qui amène le décrochage. Mais ils ont aussi l'hyper-focalisation.
Ça, sais-tu quand t'es tellement intéressé par quelque chose qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe?
Ouais.
Ouais. Ça, c'est aussi très TDAH, je pense.
Ben,
hein?
Y en a d'autres qui ont ça aussi.
Ben, je suis capable de faire ça. Je me souviens que quand j'étudiais au café, on était au Star Bar. Je ne sais pas si tu as connu ce café-là.
Oui.
Je pouvais me plonger des heures et des heures dans mes études, puis après ça, me relever, puis dire hey, t'as peu, je suis arrivé ici un matin, il fait soir. Il fait tard le soir, puis il y a des gens qui sont habillés pour sortir à soir.
Parce que ça en est au Star Wars.
Parce que j'étais hyper focus.
Oui, puis
Star Café.
Puis ce qui est intéressant, sais-tu, c'est que, par exemple, des parents qui vont me consulter, moi, je ne peux pas faire le diagnostic. Je peux orienter vers Mais tu sais, quand tu en as vu beaucoup, tu as des soupçons quand même. Puis qu'ils vont me dire, Paul, c'est impossible que ce soit ça. Parce que quand il joue à ces jeux vidéo, il peut passer 6 heures, puis il oublie de manger, de se laver.
Ouais.
L'hyperfocalisation, c'est ça. C'est autant je peux décrocher quand j'ai aucun intérêt, et autant je peux être tellement là, puis ça va même avec les passions. Je m'investis totalement dans quelque chose et plus rien d'autre existe. Donc, ça veut dire qu'il se peut, par exemple, que si j'aime le golf, que je fasse que du golf, jour et nuit ou presque, puis que j'en oublie durant la saison tout ce qu'il y a autour. Alors, imagine les problèmes relationnels. Moi, il y a des gens qui m'ont consulté à cause de ça, parce que leur conjoint ou conjointe ont tellement d'hyperfocalisation sur une passion que tout le reste n'existe pas.
TDAH et jeux vidéo,
mm-hmm.
Comment ça se passe?
On parle de cerveau ici.
Parce que tu parles d'hyperfocalisation. J'imagine qu'un TDAH qui s'en va sur les jeux vidéo doit être hyperfocusé.
Oui, moi j'ai
hyper
vu.
Hyper stimulé, en tout cas, ça, c'est sûr.
Oui, puis souvent, ce qu'on va proposer, tu sais, c'est que les jeunes qui ont un diagnostic... Hey, tu sais que le diagnostic, c'est 10 à 12 heures d'évaluation, là, hein?
Ouais,
c'est pas s'asseoir une fesse sur le médecin et me dire « il bouge beaucoup avec sa fesse », là.
C'est coûteux en temps... Autant qu'en argent, je pense. Là,
mais
c'est...
beaucoup ont des assurances pour ça.
Ah,
là.
OK, c'est
oui, oui. En
neuropsychologie. Mais 12 heures, c'est quoi le genre de test?
Pas enfilé, par exemple.
Ouais,
là, mais... ben, c'est parce que tu évalues un paquet d'affaires. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas un déficit d'attention. Oui, il y a des caractéristiques, mais ils ont toutes leurs particularités. On va évaluer la mémoire, l'intelligence, un paquet d'autres affaires. T'sais. Mais l'idée là-dedans, c'est de se rappeler que dans le déficit d'attention, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être extrêmement pertinents s'ils sont bien contrôlés.
Ouais.
L'hyperfocalisation pour un déficit d'attention...
Tu peux t'en servir à ton avantage.
Tu peux t'en servir à ton avantage, mais si tu focuses ces jeux vidéo, tu vas avoir de la misère. Écoute, l'image que je pourrais t'apporter, c'est quand les jeunes arrivent puis qu'ils ont un déficit d'attention, bien, de toute façon, ça devrait être ça en général, mais déficit d'attention, va pas ces jeux vidéo. Parce que si ton esprit est devenu créatif puis qu'il est allé dans un univers, tu vas avoir de la misère à ramasser pour faire le focus sur quelque chose que tu quittes plus au nez, qui est travail scolaire. Donc, idéalement, tout ce qui est récréo, particulièrement les écrans, vont être après tout ce qui a demandé de l'attention et de la concentration. C'est comme si je donnais mon esprit en vacances puis dire « ramasse-toi ». Puis, il y a la désorganisation facile, le petit déficit, tu comprends? Fait que ça se peut qu'il se désorganise puis qu'il mette tout son temps aux mauvaises places.
Mm-hmm.
Fait que des fois, c'est l'échec scolaire. Tu sais, imagine un déficit d'attention adulte qui est toujours ses écrans. Ça se peut que son conjoint, sa conjointe n'ait pas la satisfaction souhaitée parce que...
Ben,
des fois,
quand,
tu te sens abandonné.
Quand t'es en couple avec quelqu'un qui fait juste du divan quand t'es avec, tu sais, quand il est en dehors du travail, par exemple, ou en dehors de l'école, c'est pas attrayant, là.
Bien, ça apporte des vrais problèmes. Puis tu sais, ce que je vous dis, là, moi, hier, je me suis assise et j'ai fait la liste de ce que je voyais dans ma tête quand les gens me consultent. Il y a des gens qui vont avoir une gestion émotive difficile pour toutes sortes de raisons, mais le déficit d'attention peut amener, par exemple, de l'impulsivité, une gestion anxieuse difficile. Donc, quand tu es impulsif, ça peut amener des réactions très vives qui peuvent blesser l'autre.
Mais tu as parlé d'anxiété, là, le fait d'être TDA ou TDAH, est-ce que ça vient... Est-ce qu'il y a plus de probabilité que tu sois anxieux aussi?
Non, on s'en fait vivre aux autres.
oui, absolument. Si tu as eu le bonus 2, ce qui est à dire l'impulsivité, dans ce registre-là, il peut y avoir un désordre émotif. Oui, il peut y avoir de l'anxiété. Mais tu peux avoir un trouble anxieux ou être anxieux sans avoir de déficit d'attention.
Fait que ça, c'est pas nécessairement attaché.
Ça peut l'être. Okay. Ça peut l'être. Puis c'est ce que l'évaluation va te refléter aussi.
Je comprends.
Lequel des bonus tu as eu.
Moi, j'appelle ça des bonus. C'est là, cute. Mais,
ben, je pense que ce qui t'arrive dans la vie, c'est ce que tu vas en faire. Ça peut te rendre plus fort. Ça peut rendre des gens plus performants parce que, sachant ce que j'ai, je vais prendre des meilleurs moyens que celui qui n'en a pas, qui va dire oh, j'y vais comme ça vient. Déficit d'attention, il faut qu'il soit organisé avec des moyens. Donc, il se peut qu'il soit plus averti que d'autres. Tu sais, monsieur qui laisse sa lumière pour se rappeler de sa sécheuse, il se peut qu'il aille multiplier les bons moyens. Donc, il devient plus efficace que s'il n'y avait pas eu de déficit, parce qu'il est plus alerte sur, justement, mettre une alerte, mettre ceci, cela. Donc, il va s'habituer à être peut-être moins procrastinateur, parce qu'il y a une tendance, hein, chez les déficits d'attention, parce que quand ça ne les passionne pas, on met ça en dessous du tapis.
Ils décrochent automatiquement.
Ils décrochent, ouais.
Est-ce qu'on a fait des recherches par le passé à savoir? Parce que quand on était jeunes, toi et moi, Paul, on ne parlait pas de déficit d'attention. C'était des gens qui étaient peut-être un peu plus lunatiques. Je pense que c'est comme ça qu'on les appelait. Est-ce que c'était des gens qui, nécessairement, à cette époque-là, étaient lunatiques et troublaient la classe?
Ça dépend.
C'était les petits tannants. Tu sais, des petits tannants, c'était pas toujours lunatiques, là. On les appelait les petits tannants. Je regardais au niveau du Québec, dans le Canada, les statistiques démontrent que c'est au Québec où il y aurait le plus de gens qui sont TDAH, puis on y va avec les diagnostics, soit dit en passant. Puis même si je vais plus profondément, mettons qu'on prend la province de Québec, pour ce qui est de recevoir les diagnostics de TDAH chez les enfants par région, écoute, Montréal, ce serait 11 % des enfants. Et si je m'éloigne de Montréal, OK, je vais aller chercher la capitale nationale, donc la grande région de Québec, c'est 9 % de plus, 20 %
Hein? Mais si tu as des diagnostics faits... Où je mets le bémol, c'est qu'il y a des gens qui sont diagnostiqués, mais que le diagnostic... Des fois, je pose des questions. Ton diagnostic a été fait comment? Par le médecin de famille, sur le bord de la chaise, 10 minutes, et ils vont considérer quand même que c'est un diagnostic.
OK. Toi, ça serait un pédopsychiatre?
Il faut que ça soit un neuropsy ou un psychologue.
Neuropsy ou psychologue.
Qui sont habituellement les... Oui, ça peut être un psychiatre, mais habituellement, ces gens-là, ils ont... Ça ne veut pas dire que le médecin de famille ne peut pas attirer l'attention, mais un vrai diagnostic doit avoir une évaluation. C'est sûr que quand tu es adulte, si ton enfant a un diagnostic avec une vraie évaluation, que toi, tu te reconnais à 100 % dedans, des fois, le médecin de famille va proposer une médication. Et quand la médication agit très bien, c'est un signal que probablement que tu as aussi le diagnostic.
Donc, le médecin a le pouvoir de prescrire un médicament sans nécessairement avoir un diagnostic officiel avec les 12 heures là, de test dont tu m'as parlé.
Oui,
okay, je comprends.
Il peut. Oui.
J'avais parlé avec docteur Annick Vincent, je ne sais pas si tu
la
connais.
Oui, qui est spécialiste.
C'est une spécialiste en TDAH, c'est une psychiatre. Puis elle disait qu'il y a un vrai cerveau de TDAH, là, si tu ne donnes pas de médicaments-là à ce cerveau pour fonctionner, c'est comme si tu te permettais d'évoluer dans la société alors que tu étais pratiquement aveugle.
Oui, exactement.
C'est une belle description, hein? C'est comme des lunettes pour le cerveau.
Ah oh, oui.
Ben, c'est le titre de son livre. Mon cerveau a besoin de lunettes.
Ah, c'est bon.
C'est le titre de son livre, je pense.
C'est vrai, t'es venu présenter ce livre-là quand je l'avais reçu, oui. D'ailleurs.
Puis on parlait là, de vivre avec justement quelqu'un qui a besoin de lunettes, là, quelqu'un qui est TDA ou TDAH. Est-ce que ça peut pas être un bel outil en tant que conjoint, conjointe, de lire des livres sur le sujet pour un peu mieux comprendre comment ça se passe dans la tête de la personne?
Oui, puis pour comprendre, faut pas que tu sois écœuré. Puis c'est ça un peu l'objectif d'aujourd'hui, c'est de dire... Quand je suis rendue à bout d'une situation, j'ai juste envie de quitter cette situation-là ou de maudire celui ou celle qui porte cette situation-là. Donc, j'ai plus envie de m'informer. J'ai juste envie de décrocher et de dire, okay. Il fait exprès.
Mais moi, dans la vie, là, je laisse beaucoup de chance là, à mes conjoints, Paul. T'sais, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je laisse beaucoup de chance. Puis je regarde si la personne, exemple, ça peut être aussi banal qu'on parlait du ménage, mettons. Okay? Oui. Puis là, je dis, hey, chérie, le ménage, on dirait que tu te laisses traîner beaucoup ces temps-ci. S'il y a un effort qui est mis quelques heures ou quelques jours plus tard pour qu'elle se ramasse, tout ça, je vais être très heureux. Mais mettons que ma conjointe est TDAH, puis que ça a une influence sur notre couple, ça a une influence sur notre famille, ça a une influence sur son travail, puis on lui mentionne, elle a un diagnostic, elle sait qu'elle a un diagnostic, puis elle ne fait pas d'effort. On va l'avertir une fois, deux fois, trois fois, mais après ça, moi, c'est je m'en vais. Là. Faut vraiment que ça vienne de la personne. Là.
Ben,
faut que la personne se responsabilise. Comment de personnes vont rester 10 ans avec quelqu'un de TDAH, va juste accumuler de la toxicité dans son couple parce qu'elle va tout le temps être fâchée envers l'autre personne? Ça excuse pas tout le TDAH. Là.
Ben, en fait, la première chose, c'est de dire quand quelqu'un fait des efforts, il y a de l'espoir.
Exact.
Mais pour que s'installe un lien de confiance avec quelqu'un d'autre, il faut que ce comportement-là soit gagné dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des discussions avec d'autres personnes. Il fait un effort 3-4 jours.
Ouais.
Après ça, puis ça retombe. Fait qu'il faut qu'il y ait une durabilité dans le temps.
Exact.
Et pour qu'il y ait une durabilité dans le temps, il ne faut pas qu'il y ait de pensée magique. La pensée magique, c'est « ça va aller, ils vont faire des efforts 3-4 jours ». Mais si tu veux des comportements qui changent dans la durabilité, il faut qu'il y ait de l'humilité. Une vraie humilité de dire « voici, Je reconnais qui je suis et je prends des bons moyens. Mais ces moyens-là, je dois apprendre à les apprivoiser. C'est pas vrai que tu prends un moyen, il va t'achaler au début, il va te tanner. T'es pas confortable avec quelque chose qui est loin de toi. Donc, il faut aussi se donner la chance. Tu sais, moi, j'ai un bac en musique aussi, là, je fais de la musique. Puis, bien, pratiquer pour devenir bon.
Mm-hmm,
OK? Ouais. Ça veut dire que si je pratique pas, je deviendrai pas capable de... Il y a des gens plus virtuoses que d'autres, tu vas me dire. Mais il faut aussi, dans cette société d'instantanéité, se donner une chance d'avoir un malaise. C'est pas vrai parce que tu utilises un moyen au départ que tu vas dire « Miracle de Noël! » Il va te taper ses nerfs éventuellement, jusqu'à temps que tu te sentes confortable avec lui. Puis ça, c'est important de se le dire. Il va avoir un temps d'adaptation. Il faut passer ce temps-là pour être capable d'être durable dans ce moyen.
Parce que le réflexe d'Élodie, je trouve ça franchement brillant. T'sais, exemple, lire le livre de Dr. Annick Vincent,
oui.
« Mon cerveau a besoin de lunettes ».
Puis il y a le deuxième pour les adultes qui s'appelle « Mon cerveau a encore besoin de lunettes ».
Mais une fois que le conjoint ou la conjointe prend acte de la problématique de l'autre, puis l'autre a vraiment été diagnostiqué, puis il a pris acte de son diagnostic, c'est beau de dire « Oui, mais je suis comme je suis, accepte-moi comme je suis », mais l'autre personne n'est pas obligée de t'accepter comme t'es là, si tu ne fais pas d'effort de ton bord.
Ben oui.
Oubliez les enfants sur la banquette arrière. Oubliez ton chien en plein jour quand il fait chaud, puis le chien dans le char. Je veux dire, tu peux pardonner, mais t'oublies pas. Puis si ça donne lieu à la mort d'un chien, ou bien encore pire, la mort d'un enfant, c'est catastrophique, là. C'est stressant pour la conjointe ou le conjoint d'être avec quelqu'un qui se prend pas en main.
Absolument. Là. Mais c'est pour ça que ça peut être une des causes de séparation. Elodie, tu disais tantôt, il y avait peut-être pas juste ça, mais il y a probablement l'accumulation du contre-coup de...
Pis... C'est ça. Ben, dans notre cas, puis t'sais, c'est des histoires qui remontent à quand même longtemps, mais en vivant avec quelqu'un en vivant avec quelqu'un de TDA, vous irez sur mon Facebook, là, vous fourrez dans mon passé.
Certaines qu'il y en a qui le font en ce moment. Oui.
En étant avec quelqu'un de TDA, mais en le sachant pas, puis justement, sans hyperactivité, c'était plus c'était mieux caché.
Oui.
Ben, on s'est rendu compte que cette personne-là, c'était beaucoup d'anxiété quant à son futur, quant à sa vie professionnelle. Quelqu'un qui n'était pas capable officiellement vraiment de se déposer à quelque part puis de performer. Pourquoi? Parce que justement, c'est devenu quelqu'un qui est un super bon entrepreneur. Donc, qui s'est servi de son hyper-focalisation pour le faire pour son propre compte, puis ça lui a rendu service. Et moi, j'ai été là dans la vie de cette personne-là au bout où est-ce qu'il est hyper anxieux. Pourquoi? Parce que son cerveau fait juste le diriger partout à gauche et à droite.
Exact.
Plutôt qu'être dans notre relation à nous, tu sais. Puis, ben, j'ai trop essayé longtemps d'être une bouée de sauvetage. Donc, oui, ça peut fragiliser une relation, ça peut en briser une. Est-ce que si on l'avait su juste avant de se séparer, j'aurais déjà été écœurée, puis ça n'aurait pas fonctionné pareil? Est-ce que si je l'avais su des années plus tôt, on aurait travaillé
aurait
ensemble en amont?
Peut-être.
Ça ne sert à rien aujourd'hui de penser à ça.
Oui.
Les deux, on a fait notre vie chacun de notre côté. Lui avec de nouveaux outils, moi avec quelqu'un qui n'a pas de TDAH, puis on a trouvé notre bonheur, tu sais. Mais je pense que ça peut être très difficile de vivre avec quelqu'un dont le cerveau ne fonctionne pas exactement comme le tien. Mais je pense que si les deux, tu prends le temps de t'outiller, ça peut fonctionner. Puis même, ça peut être une relation encore plus belle.
Oui.
Tu sais, les situations dont tu as parlé tantôt, tu sais, ça peut avoir l'air intense de parler du chien sur la banquette arrière ou de l'enfant à la guillotine.
Ouais, je fais des images.
Mais ça arrive.
Ben oui.
Mais
oui,
ça arrive. Puis c'est grave. Il ne faut pas que ça arrive. Tu
sais, perd tout le temps sa job parce qu'il ne met pas son cadran. Je veux dire, mais pourquoi tu ne mets pas ton cadran la veille? Tu sais, tu le mets juste une fois, là, une fois par semaine, tu le fais répéter à tous les jours. Là. Mais on dirait qu'il y en a qui sont incapables de le faire. Christian, qui nous écrit, Christian travaille en cuisine. Dis-moi, j'ai appris plein de trucs d'un chef de cuisine TDAH. Il mettait des minuteries partout pour rien oublier. Et au départ, il y a quelques années, c'était vraiment mal vu pour des chefs de mettre des minuteries.
Ouais.
Mais lui, c'était une façon de survivre dans son métier et de rien faire brûler. Il l'a fait, puis ce gars-là est chef, il dirige un restaurant, il se prend en main.
Oui, mais rappelez-vous que le déficit d'attention, c'est un élément de la personne. Hein?
Mm-hmm.
Derrière le déficit d'attention, il y a une personnalité, il y a plein d'éléments qui peuvent expliquer que peut-être cette personne-là, même si elle n'avait pas de déficit d'attention, elle se prendrait peut-être pas en main sur d'autres choses.
C'est quelqu'un de persévérant, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui a à cœur la relation, qui est prêt à s'engager.
C'est une victimite qui utilise ce qu'il y a autour.
Ah, la victimite. Et que j'ai de la misère avec la victimite.
Ben, la victimite, c'est...
Il y a du monde, c'est jamais de leur faute. Pas capable.
Ben, ça se peut que tu es un déficit d'attention qui est victimite.
Moi, je dis à ma blonde, tout s'explique, chérie.
Tu dis ça, toi?
T'as oublié de faire la vaisselle, Yann. Là. Ça fait deux jours en ligne, tu me dis que tu vas faire... Oui, mais tout s'explique, chérie.
C'est pas ce que tu penses.
Ça, on appelle ça de la manipulation.
Ah, ouais.
Ah, OK, ouais.
Ben, c'est...
C'est un peu toxique.
ça dépend l'après. Là. On ne sait pas comment il a résulté de ce commentaire-là.
Oh, mais... Tu fais l'amour et elle l'oublie le lendemain. C'est pas grave.
Ah, ben là, ça, c'est d'autres outils dans un couple.
Oui, mais tu sais, un moment donné, il ne sera plus capable et il n'y aura plus ça. Là. Oh! Là, il bénéficie de cet outil-là.
Prépare tes vieux jours, maçon!
Elle va me domper pour un plus jeune. Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée. Tu donnes des conférences, tu rencontres des clients. On fait comment pour te rejoindre?
Tapez Paul Lévesque, pas d'accent, je vais apparaître à quelque part sur Google. Paul Lévesque à commercial@yahoo.ca, Paul Lévesque Facebook, vous allez me reconnaître facilement. Les cheveux rouges.
Des conférences ouvertes à tout le monde?
Il n'y a pas de temps. Sont beaucoup. Tu sais, à soir, je suis en conférence sur les techniques d'impact, là. Mais c'est
fermé. C'est quoi les techniques d'impact?
Les techniques d'impact, c'est pour les parents.
Ça fait, tu sais, les gars là, qui font la sécurité d'un bar. Là.
Oui, c'est ça. Pouf!
Bon, vous comprendrez que ce n'est pas celle-là moi je vais utiliser parce que je ne réussirai jamais mon punch. Mais technique d'impact, c'est comment on apprend par les leçons de vie. OK? Puis je pourrais venir vous en reparler si vous voulez. Quand tes parents, là, ben une des façons d'éduquer nos enfants, c'est de leur faire comprendre par des leçons de vie. Moi, je crois que c'est très puissant. Et j'en enseigne plein ce soir. Donc, je serai à Saint-Étienne ce soir.
À Saint-Étienne. Un gros merci pour l'évêque.
Bisous. Bye-bye.
Bye-bye. 418-971-101, si vous avez des choses à me dire, on vient.
Marceau, le soir.
Salut, c'est Marceau.